faiblesse.
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non ?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
Bienvenue à toi, Ivar. Tu es parmi nous puisque nous allons parler maintenant, on l'annonçait au sommaire de cette émission, de la Bosnie-Herzégovine. Donc on va en parler pendant un petit moment. On va parler de deux choses, hein, fondamentalement. Déjà du cas Bosnie-Herzégovine, de ce que ça signifie quand on parle de balkanisation des conflits, de voilà, toutes ces choses-là. Et puis nous allons ensuite parler, à proprement parler, de la soirée, de la rencontre du vendredi 3 mars 2007 qui aura lieu au Lissignol numéro 8, dont l'intitulé est le suivant, Bosnie-Herzégovine, la marche pour la paix face au risque d'éclatement. Et là, donc, tu reviendras sur ce que tu as cofondé ou fondé, cette marche de la paix au travers de la Bosnie pour arriver à réconcilier des populations. C'est un petit peu près comme ça qu'on va y aller, hein, c'est ça ?
Oui,
le canevas est correct.
Oui.
Alors, bienvenue à toi déjà, Ivar.
Oui, merci
avec plaisir.
Cette invitation.
Avec beaucoup de plaisir. Alors, je vais peut-être d'ores et déjà dire que les rencontres du vendredi, les rencontres du Lissignol 8 sont des rencontres qui sont ouvertes à toutes et à tous, qu'elles ont lieu au numéro 8 de Lissignol, ça se trouve à Genève. Et qu'au programme de cette séance du 3 mars, eh bien, ce sera donc Bosnie-Herzégovine, la marche pour la paix face au risque d'éclatement, par Ivar Peterson toi-même, hein, de Solidarité Bosnie, dont tu es le fondateur. Et le programme de la soirée, ce sera à 18h30, sous pain et fromage. À 19h, la projection d'un film dont le nom est Belvédère.
Non, il y a eu un changement. Nous mettons directement un petit film qui a été réalisé par nos amis d'En France, des Dombes, qui sont venus à la marche en 2014, qui ont filmé, qui ont fait des interviews, et qui est très bien ciblé par rapport à ce qu'on recherche pour cette soirée.
D'accord, donc là, ce sera plus des témoignages de participants à la marche.
Voilà, exactement.
Génial. Bon, bah, très bien. Et puis à 20h, la présentation et la discussion. On l'a dit, on le répète, entrée libre et c'est ouvert à toutes et à tous. Alors peut-être allons-nous commencer par situer la Bosnie territorialement, géographiquement et puis ensuite politiquement.
Oui, alors je vais commencer d'ailleurs par ma propre découverte de la Bosnie-Herzégovine. Parce que, comme tout le monde, j'avais entendu parler de la Yougoslavie. En fait, l'idée d'aller en Yougoslavie est venue d'un ami et moi qui étions en Algérie, donc en 65. Et là, l'Algérie avait été soutenue par la Yougoslavie dans le mouvement de décolonisation, de libération. Et avec introduction aussi du concept autogestionnaire, donc qui avait été repris par la première équipe de l'indépendance de 62 en Algérie, Ben Bella.
Et du côté de la Yougoslavie, c'était Tito.
Disons, en Algérie, ils ont à peine eu le temps de mettre en œuvre, tandis qu'en Yougoslavie, il y avait déjà une expérience un peu plus longue qui date de 52 environ, quoi. Mmh. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir sur place en Yougoslavie, comment ça se passe, quoi. Donc, l'année suivante, en 66, on a été là-bas, on a visité une entreprise autogérée en Slovénie. Et ensuite, on s'est embarqué pour Dubrovnik, la vacance aussi. Et c'est là qu'on a entendu parler de la Bosnie-Herzégovine comme région musulmane. Et puis du coup, vu que là, on avait en Algérie côtoyé, disons, les musulmans, on s'est dit, tiens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe par là-bas. Du coup, on est arrivé à Mostar, ensuite à Sarajevo, où on a été tellement bien reçus que c'est vraiment inoubliable. Et c'est aussi une des raisons de mon engagement pour la Bosnie. C'est que quand on est bien reçu et qu'il y a eu un tel échange, là, on ne peut pas oublier, disons, un pays. J'imagine que c'est la même chose pour ceux qui vont dans d'autres pays, que ce soit en Amérique latine ou aux Indes ou ailleurs, quoi. Mmh. Et là, on a visité le musée national de Sarajevo et on s'est rendu compte que Derrière la Bosnie-Herzégovine, il y avait toute une histoire. Donc, il y a eu aussi longue que la Suisse, ce qui est absolument pas connu ici, avec toute une lignée de rois, dont la richesse, d'ailleurs en parenthèse, était tirée de l'argent de Srebrenica. Srebrenica veut dire argent. Et ces rois ont régné environ depuis 1180 jusqu'à l'arrivée des Ottomans aux environs de 1490 environ, quoi. Il y a eu toute une lignée. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils sont retrouvés, en fait, la Bosnie sur la ligne de fracture entre l'église romaine et l'église orthodoxe dans Constantinople, qui étaient les restes de l'Empire d'Orient, quoi. Et pris entre deux, ils ont développé leur propre philosophie, on peut dire leur propre conception religieuse, qui était Bogomil, c'est-à-dire cathare, quoi. D'ailleurs, ils avaient des liens avec les Patarins en Italie et les Cathares au sud de la France, ce qui a donné certainement beaucoup dans l'identité de la Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, quand les Ottomans sont venus, ils sont ralliés à un concept qui était proche, c'était celui des soufis, qui est un courant musulman, je dirais non sectaire, plutôt mystique, mais avec aussi, ce qui est intéressant, un certain recul par rapport au pouvoir, quoi. Donc là, ça a favorisé aussi une certaine indépendance d'esprit, ça a favorisé aussi toute une culture musicale et tout, qui existe toujours en Bosnie, qui est le Tcherda. Et donc là, nous avons fait cette découverte en 66, j'ai juste fait un saut en 70. Et évidemment, dans les années 90, quand il y a eu la chute du mur, donc 89, et 91, il y a eu le début du conflit en Yougoslavie, il y a eu donc... Il faut dire que là aussi, ce sont des événements que j'ai petit à petit appris. C'est que Milosevic, en 89, il s'était emparé du pouvoir, on peut dire, en Serbie. Et suite à son discours au Champ des Merles, au Kosovo, qui était une bataille justement des nobles de la région, donc principalement serbes, mais il y avait aussi des Croates et des Bosniaques qui avaient tenté de s'opposer à l'arrivée des Ottomans, et ils ont perdu, quoi, cette bataille. Et cette bataille est commémorée donc du côté serbe avec une... c'est devenu avec une certaine fougue mystique là, en 89, et nationaliste. Et justement, c'est de là que date un peu la rupture, on peut dire, de Milosevic avec le socialisme, qui est par principe internationaliste. Et là, c'était le début de la catastrophe en Yougoslavie. Parce qu'il s'est emparé des pouvoirs donc à la présidence. Il y avait donc les six républiques, ça il faut le rappeler, qui ont été donc fondées en 45, au sortir de la guerre, après toute la résistance titiste. Et Tito avait appuyé d'ailleurs la création de la République de Bosnie-Herzégovine.
Ouais, ça. Du coup, tu nous as... c'est bon.
Pardon. Oui. Donc, cette république, en fait, participait aussi d'une sorte d'équilibre de la Yougoslavie, parce que donc de la première Yougoslavie, qui était donc issue de la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire ottoman et de la fin de l'Empire austro-hongrois, qui était fondée en 18, là il y avait un roi serbe, Kara Djordjevic, et donc une très nette près des ménances serbes, ce qui a d'ailleurs provoqué par contre-coup, bon, je ne les excuse pas parce qu'après il y a eu des horreurs aussi, ça a provoqué l'avènement du courant Ustaši, donc les nationalistes croates.
Oui, tout à fait.
Mais cet avènement peut s'expliquer aussi comme réaction par rapport à une domination. Et Tito l'avait bien compris, c'est pour ça qu'il cherchait, dans le cas de la Yougoslavie, à équilibrer on peut dire les pouvoirs. Et il a favorisé donc l'avènement de cette république de Bosnie-Herzégovine, donc qui est un pays légèrement plus petit que la Suisse, avec moins d'habitants. Donc il y avait 4 millions d'habitants, maintenant il y en a moins à cause de différentes raisons. Et on peut dire cette Yougoslavie socialiste est devenue autogestionnaire donc autour de 54 après la rupture avec donc il y a eu une rupture avec Staline en 48 et donc la recherche d'un autre modèle de société de socialisme qui je dois dire par rapport à ce qu'on connaît dans l'Espagne révolutionnaire et anarchiste de 36-39, n'était pas arrivé même à la moitié, disons, de la qualité des réalisations des anarcho-syndicalistes espagnols. Quoi.
D'accord.
Mais ça, c'était en grande partie par une contradiction entre le pouvoir central, voire policier, avec des risques de se retrouver dans un camp à Golo... Je ne me souviens plus exactement, c'est une île, Golokpotok, un nom comme ça. Donc, pour les travailleurs qui avaient un réel pouvoir théorique par la constitution yougoslave, on peut estimer qu'à peine un quart ont vraiment utilisé ce pouvoir quoi, qui leur permettait d'intervenir par rapport à l'orientation de l'entreprise, par rapport à la nomination des directeurs, voire dans la dénonciation de détournements ou de choses qui ne vont pas. Mais ce pouvoir n'a pas toujours été utilisé. Quoi.
Et ça, comment on l'explique ? Est-ce qu'il y avait une forme d'apparatchik au pouvoir qui ne partageait pas ce pouvoir-là et qui vraiment, comme un sérail, vraiment le gardait et comment dire, bloquait le reste de la société ? Comment est-ce qu'on peut
Alors on peut dire effectivement qu'il y avait cette contradiction dans le socialisme autogestionnaire yougoslave, donc qui théoriquement était très, très intéressant. Et certainement qu'en Slovénie, par exemple, où les travailleurs avaient peut-être un niveau de culture un peu plus élevé, là, ils ont réussi, et puis surtout une bonne assise économique, là, ils ont pu aller plus loin, certainement, dans la réalisation de l'autogestion que des régions plus pauvres, où ils étaient plus dépendants, y compris d'ailleurs de la Slovénie. Quoi.
Ouais, d'accord. Ok, et puis alors on en arrive effectivement à ce conflit. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tout d'un coup, voilà, cette terre qui a quand même reçu des populations diverses, qui ont quand même réussi d'une certaine manière à vivre ensemble, eh bien, s'embrase ?
Alors, oui, alors je voulais revenir effectivement à cette histoire en 89 de prise de pouvoir de Milosevic. Mmh. Donc, il y avait une présidence représentée donc, par les six républiques, plus deux régions autonomes qui dépendaient de la Serbie, mais qui avaient presque acquis un statut de république, qui était le Kosovo et la Voïvodine. Mais seulement, c'était pas tout à fait des républiques. Et ce que Milosevic a fait, c'est qu'il s'est emparé de ces deux voix. Donc avec le Monténégro, ils avaient 4 voix contre 4. Et du coup, la présidence était complètement paralysée. Ça date de fin 90-91. Et là, ils ont refusé, les Serbes refusaient donc que Mesic, qui était le représentant croate qui devait venir à la présidence, parce qu'il faut dire que Tito était décédé en 80. Et ensuite, ils avaient un système de présidence, on peut dire une sorte de conseil fédéral, un peu sur le modèle suisse, avec un tournus. Chaque année, il y avait un autre président. Et quand il s'est agi de la venue de Mesic, qui était d'ailleurs pas, on l'a vu par la suite, qui était pas nationaliste, qui s'était même opposé à son prédécesseur, qui était Tudjman, donc quand il a repris le pouvoir en Croatie. Et là, au niveau institutionnel, ça a été complètement paralysé, ce qui fait que la Croatie et la Slovénie, ben, ils ont décidé de se défédéraliser. Ce qui était alors je ne sais pas s'ils ont suivi tous les règlements institutionnels, mais c'était en tout cas une possibilité qui existait dans la constitution yougoslave, de défédéraliser, quoi. Mais seulement, le problème, c'est que l'armée était contrôlée par la haute hiérarchie militaire serbe. Et Milosevic, comme l'Académie des sciences de Belgrade, qui a joué un très grand rôle au niveau propagande, que l'Église orthodoxe, en tout cas dans sa majorité, les services secrets, etc., ben ils ont joué la carte militaire, qui était leur principal atout. Et leur première intervention était contre l'indépendance de la Slovénie, mais là c'était juste une expédition relativement superficielle qui a duré à peine 15 jours, quoi, parce que la Serbie n'avait pas de population serbe, enfin il n'y avait pas de population serbe en Slovénie, donc ça n'avait pas d'intérêt. Tandis que la Croatie, ce qu'il faut savoir, c'est que du temps de la confrontation entre l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, les Austro-Hongrois ont récupéré en somme des paysans par centaines, par milliers, qui fuyaient précisément l'Empire ottoman, et ils leur ont accordé des terres tout autour de la Bosnie comme défenseurs en première ligne de l'Empire austro-hongrois.
Voilà, ça devenait une zone tampon.
Oui, voilà, c'était une sorte de zone tampon qui était bien sûr contrôlée par l'Empire autrichien. Mais donc ces paysans, bon, ils travaillaient la terre, je pense, la majorité du temps, mais dès qu'il y avait une alerte, hop, ils s'armaient. Puis,
une sorte de milice comme ça.
Voilà, oui, c'est ça. Ouais.
Paysans armés.
Ouais. Mmh. Et donc leurs descendants, en fait, ils étaient plus de 300 000 en Croatie, surtout à proximité de la frontière nord et sud de la Bosnie. Donc au sud, c'était Knin, qui était devenu d'ailleurs la capitale de ces Krajina. Et puis évidemment, l'idée des nationalistes serbes, c'était de réunir tous les Serbes dans une grande Serbie. Et donc ces Krajina, donc ils ont attaqué la Croatie. Et entre la Serbie et on peut dire, c'est Krajina, il y avait Vukovar, par exemple, qui était à la frontière et qui était assiégé pendant 3 mois. Donc il y a eu une résistance, et là c'était officiellement encore l'armée yougoslave, où il y avait même, pour la petite histoire, des Bosniaques, des jeunes conscrits qui étaient là, quoi. Je pense qu'il y a eu quelques désertions, mais ces Bosniaques, notamment en tout cas ceux que je connais de la région de Srebrenica, ils ont aidé les résistants croates pour sortir des blessés, amener de la munition, etc., quoi.
Est-ce que là il y a une analogie à faire avec ce que l'on a connu au Liban, c'est-à-dire un conflit qui est à l'intérieur d'un territoire certes, mais qui est quelque part piloté par des forces extérieures, des pays extérieurs, puisque là effectivement on se retrouve avec une Serbie qui a cette volonté de la Grande Serbie et qui veut donc s'accaparer ce territoire-là. Ces Croates qui sont des résistants croates, il y a des Bosniaques qui sont là et qui sont eux effectivement musulmans. Alors est-ce qu'il y a une analogie à faire avec justement ce conflit qui est finalement nourri également par ces puissances extérieures finalement?
Oui, alors je dirais que c'est différent par rapport à la Syrie. Ce qu'on peut dire au niveau de l'intervention extérieure, c'est tout simplement, disons, les grands milieux ultralibéraux dans leur plan par rapport à l'Europe, l'Union européenne. Et évidemment, ça les gênait d'avoir à intégrer une Yougoslavie socialiste autogestionnaire. Et j'ai même eu ici à Genève des informations en 1991 comme quoi il y avait des agents, notamment de la CIA, qui travaillaient en Yougoslavie, d'une part pour soutenir Milosevic, et puis leur copain en Croatie, ben, pour soutenir Tudjman.
Oui.
Et en fait, leur but, c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant, même que je dirais, eux ne sont pas les principaux responsables. Hein. Les principaux responsables, c'est évidemment du côté des nationalistes serbes et des nationalistes croates. Mais tout de même, en 91, ben, ce qu'on m'a dit, c'est que leur but, c'était de faire ensuite entrer un à un tous ces pays formatés à l'ultralibéralisme. Et c'est ce qu'on constate maintenant. Il y a eu la Slovénie, ensuite la Croatie. Probablement, ils estiment que la Serbie ou la Bosnie, c'est encore pas suffisamment formaté pour entrer. Mais c'est dans les plans
Vous dites cette
futurs.
phagocyté comme ça, vous
Oui,
s'accaparez.
mais ça, c'est pas que je ferai remarquer que c'est un plan au niveau mondial. Hein, c'est
Complètement,
pas.
tout à fait, tout à fait. Ouais.
Ouais, c'est. Malheureusement, ce n'est pas que dans l'ex-Yougoslavie, quoi. Et là, je voulais en revenir donc, dans le conflit donc, en 1991. L'armée serbe a avancé sur pratiquement un tiers du territoire de la Croatie. Donc, il y a eu la prise de Vukovar. Et c'est là où ont commencé les premières horreurs, et c'est là où on s'est rendu compte justement que dans cette stratégie, Milosevic et les autres utilisaient des groupes paramilitaires qui sont Arkan, Sesselj, etc., soi-disant incontrôlés par le pouvoir central, mais on sait très bien
Voilà, c'est ça.
que comme Mladic d'ailleurs, ils avaient leur solde qui venait de
Petit
Belgrade,
blondier,
quoi.
exactement,
Ouais. Et
avec les
puis
massacres
c'est,
que l'on a.
voilà,
Voilà.
et ces milices à Vukovar ont massacré tous les blessés de l'hôpital, y compris un Français qui était là comme volontaire dans la défense de Vukovar, je crois à peu près 300 blessés, quoi.
Ok. Et puis alors, on en arrive à un moment donné aux accords de Dayton,
Non, alors,
ou tu bien
oui,
hein,
alors tu
hein
sautes les étapes, mon
alors,
cher.
continue, c'est parce que je regarde le chrono quand même.
Ah, d'accord.
Non, non, mais vas-y, on est
Oui.
encore un petit peu.
Non, mais je vais juste
Mais
brosser un peu la
très
situation.
volontiers.
Donc, là, ça a aussi été un des facteurs qui a fait que les Bosniaques ont voté pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Donc ça, c'était l'année suivante, en mars 92. Et ce vote était d'ailleurs parrainé par la communauté internationale. Il y avait d'ailleurs, comment il s'appelle, un avocat français qui était dans le coup aussi. Son nom m'échappe maintenant, mais toujours est-il que j'entends, ce n'était pas un coup de tête, c'était quand même quelque chose de réfléchi. Simplement que en Bosnie, il y a du côté des Bosniaques musulmans, par exemple, il n'y avait pas, disons, de courant forcément nationaliste comme c'était le cas en Serbie, qu'en Croatie
Oui.
ou même en Slovénie. C'était plutôt une sorte de réflexe défensif en se disant, parce qu'il n'y avait plus le contrepoids de la Croatie et de la Slovénie. Donc ils se disaient, ben, si on reste dans ce cadre de cette Yougoslavie fantomatique, ben, on va se faire dominer, écraser par les nationalistes serbes,
Bien
quoi.
sûr, hein.
Du coup, ils ont voté pour l'indépendance et le 6 avril était le début donc peu après la déclaration d'indépendance, c'était le début de l'offensive des forces serbes. Et puis là, je dois dire que la thèse, qui est encore la thèse officielle, y compris en Suisse, ça je le regrette beaucoup, c'est que c'était une guerre civile. Alors que nous, notre petit groupe à Genève qui étudions la situation, on peut dire semaine après semaine, on avait bien compris, et tous les Bosniaques qui sont un peu au courant vous le diront aussi, que ce n'était pas du tout une guerre civile, c'était une agression,
Ouais, une guerre de conquête,
une guerre de
une
conquête,
invasion. Hein.
Avec une volonté génocidaire depuis le début. qui était, on peut dire, camouflée sous le langage de nettoyage ethnique. Mais déjà, aussi le terme nettoyage ethnique est déjà assez, assez horrible en tant que tel, quoi. Et là, disons, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de mouvements populaires en Europe, de solidarité et tout. Enfin, j'étais dans beaucoup de mouvements, que ce soit au Vietnam ou d'autres. Là, on arrivait à mobiliser assez rapidement des dizaines, voire de milliers de personnes, tandis que par rapport à la Bosnie, c'est resté très faible comme mobilisation. On a beaucoup travaillé en France avec le mouvement Convergence citoyens-citoyennes pour la Bosnie, qui a regroupé à un certain moment 400 collectifs. Et notre petit groupe, avec un journal, Mirna Bosna, a eu un certain rôle dans ce mouvement, parce que nous étions une des sources d'information par le biais des témoignages des réfugiés, des recoupements qu'on faisait, des analyses qu'on réalisait à cette époque-là. Quoi. Ouais.
Alors justement, comment est-ce qu'on explique cette latence et puis cette non-réaction de la société civile, pourrait-on dire, mais également ouais. les dysfonctionnements de l'ONU, on en a vu par la suite, c'est vrai ouais. que c'est... Est-ce que c'est la complexité du conflit ? Est-ce que c'est que les gens n'ont pas eu ces informations-là ? Il leur manquait des informations ? Parce que des massacres, il y en a eu. Tu citais Vukovar, Srebrenica ouais. également. Enfin, il y a eu des choses incroyables qui se sont déroulées.
Oui, alors là, c'est les Vukovar et Srebrenica, c'est les deux pôles les plus connus. Mais entre ces deux pôles, donc c'est 91 puis Srebrenica 95, il y a quand même eu 100 000 tués en Bosnie durant le conflit. Et dans certains cas, on peut dire que c'est très manifestement un génocide, mais qui n'a pas été reconnu officiellement par le TPI, par les grandes puissances. Je cite un village vers Tvornik où les 750 hommes et adolescents ont été tués en quelques heures, y compris d'ailleurs par des policiers de Tvornik et puis des forces venues de Belgrade. Et il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse à ce sujet, quoi. Donc là, il y a aussi, même si le TPI a fait beaucoup, il y a quand même des lacunes qui peuvent être graves pour l'avenir, dans la mesure où, par exemple, les imams, qui sont les prêtres musulmans, ont fait tout un travail de médiation, notamment auprès des familles des victimes, en leur disant « attention, ne tombez pas dans la vengeance, parce que moralement, là, vous descendez au même niveau que vos adversaires ». Et il faut faire confiance dans la justice, la justice internationale. Alors, ce message a fait que, ça n'a pas été suffisamment relevé par les médias, il y a eu justement très peu de cas de vengeance en Bosnie-Herzégovine, malgré qu'ils ont perdu plus de 80 000 personnes, quoi. Et on peut, le seul cas connu, c'est justement un jeune de Tvornik à cause de ce manque de justice qui a tué un policier, quoi, avec son fusil de chasse.
Ouais, d'accord. Et alors là-dedans, eh bien, toi, avec cette l'association que vous avez montée, Solidarité Bosnie, eh bien, vous proposez, pour aller dans ce sens-là, d'apaisement des populations, eh bien, cette marche de la paix.
Oui, alors j'ai organisé les premières marches avec l'association des survivants de Srebrenica, donc en 2000. Et là, donc, la plupart des médias disaient bon, le génocide s'est passé à Srebrenica même, dans la ville, quoi, et tout. Et puis, non, tous les témoignages des Srebreniciens montraient qu'il y a eu effectivement des massacres à Potocari, des hommes qui avaient accompagné leur famille le 11 juillet, quand les autorités de Srebrenica ont dit aux femmes, aux enfants, aux vieillards de descendre dans la base de Potocari, 4 km oui. plus bas que Srebrenica. Mm-hmm. Et là, il y a eu pratiquement tous les hommes accompagnant, plusieurs centaines ont été tués. Mais le génocide s'est passé dans les montagnes au nord de Srebrenica. Quand la colonne s'est embranlée le soir du 11 juillet, ils ont été attaqués le 12 juillet et pris d'une embuscade, mitraillés et ensuite bombardés depuis la route en contrebas. Et ce qu'il faut relever aussi, c'est que l'OTAN Par exemple, les forces de l'ONU n'ont absolument rien fait pour protéger cette colonne, quoi.
Ouais. Là aussi, tu vois, de nouveau, je pense immédiatement au Liban et à Sabra et Shatila, où on voit qu'il y a effectivement un détournement de l'attention, une sorte de zone de blackout médiatique, et puis en même temps, des organisations qui, effectivement, nient, ou en tout cas, dont l'incurie est hallucinante, et puis, ben voilà, un génocide se commet.
Oui, alors là, il y a, je dirais, quand même une très grande responsabilité internationale, dans la mesure où le feu vert pour l'abandon des zones de sécurité de Srebrenica et Zepa, donc ça avait été décidé suite à l'arrivée du général Morillon en 93, les présidents des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France ont décidé de laisser tomber ces zones de sécurité. Et à quelque part, ils ont donné le feu vert aux forces serbes. Et effectivement, nous, ça nous avait toujours semblé bizarre, les prétextes de non-intervention, parce qu'on nous disait, ouais, c'était à cause d'un fax qui était défectueux, à cause de... qu'il y avait des nuages ou comme ça, et nous, on savait très bien que c'était des prétextes complètement bidons. Et Florence Hartmann, qui était l'ex-porte-parole du TPI, a révélé assez récemment, c'était l'année dernière, qu'effectivement, il y a eu une vraie décision d'abandon de Srebrenica et de Zepa. Quoi.
Ouais. Alors dis-moi, cette marche de la paix, elle a cours depuis l'an 2000. Ça veut dire qu'il y a eu chaque année une édition ?
Oui, alors il y a eu chaque année une édition, donc 2000-2004 en Suisse. Et ensuite, en octobre 2004, j'ai été à Srebrenica pour la première fois, discuter avec les autorités sur place. Et puis, je leur ai dit, voilà, on organise cette marche en Suisse. Mais maintenant, donc 2005, c'était l'année suivante, il faut que la marche ait lieu en Bosnie, sur le vrai terrain.
Bien sûr.
Et pour éviter que ça soit une reconstitution, qui de toute façon serait impossible, j'ai proposé que la marche se fasse dans le sens du retour, ce qui se fait donc chaque année depuis 2005. Et la première année, on était une quinzaine d'internationaux, France, Suisse principalement. Depuis, on est arrivé jusqu'à 80 internationaux dans notre groupe. Mais le nombre des participants globalement est monté de 400 en 2005 à plus de 8000 en 2015. Quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, en 2005, c'était surtout des vétérans, des survivants de la colonne de juillet 1995. Alors que maintenant, la grande majorité, ce sont des jeunes qui viennent de toute la Bosnie, voire de la diaspora.
Ah, ça, c'est très, très bon signe.
Ouais.
Et alors, comment, trivialement, comment est-ce que ça se passe ? On sillonne un parcours sur plusieurs jours. Combien de temps cela dure ? Et puis, est-ce que tout le monde peut s'y atteler ?
Alors, donc, on part de Nezouk, qui est le village qui était sur le front à l'époque et qui avait accueilli les premiers, on peut dire la tête de la colonne. Sur les 14 000, ils n'ont été que 4 000 environ à franchir la ligne de front à Nezouk. Et 2 000 par la suite, qui des fois étaient cachés dans les montagnes, traqués comme des bêtes. Il faut entendre le témoignage de mon ami Gillet, qui est devenu d'ailleurs le principal organisateur de la marche. C'est qu'ils étaient traqués par des patrouilles de soldats serbes avec des chiens et tout. Donc ça fait qu'ils devaient se déplacer tous les deux ou trois jours. Ils avaient trouvé des bâches en plastique et tout. Ils avaient improvisé des campements. Et tout. Et lui, n'a pu, avec son petit groupe, ils ont réussi à passer la ligne de front que 2 mois après, exactement le 11 septembre 1995. Quoi.
D'accord. Et puis alors, voilà, cette marche parcourt des étapes clés.
Oui, alors voilà. Alors, la marche s'effectue en 3 étapes de 26 km environ. À chaque étape, il y a des campements. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est. Les tentes sont déplacées et montées par des volontaires de l'armée de Bosnie-Herzégovine, y compris avec des volontaires bosno-serbes.
Excellent. Donc ça fait partie vraiment de l'apaisement, d'une forme de réconciliation et de travail en commun pour la suite.
Alors, malheureusement, on n'en est encore pas là, quoi, parce qu'il y a énormément de blocages du côté de la République serbe. Alors, effectivement, il y a des policiers de Republika Srpska, parce qu'on se trouve, donc, après Nezuk, qui est encore en fédération, on se trouve en territoire Republika Srpska, qui sont là le long de la marche, quoi, oui. Avec lesquels, des fois, on a pu discuter avec, disons, plutôt ceux de la nouvelle génération qui parlaient un peu anglais et tout.
Mais là, le dialogue est possible.
Oui, tout à fait. Bah, ils ne refusent pas le dialogue.
Oui.
Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à Srebrenica même, donc la population était en majorité bosniaque avant la guerre, aux trois quarts. Et maintenant, les Bosniaques sont un peu minoritaires, donc 3500, 4500 à peu près comme ça, comme rapport. Et des deux côtés, ils ont décidé, depuis 2000 en tout cas, de travailler ensemble. Donc à la mairie, il y avait longtemps un maire serbe, maintenant il y a un maire, je veux dire, il y avait des maires bosniaques, et maintenant il y a un maire serbe. Mm-hmm. Mais ils travaillent ensemble, et puis, je veux dire, j'étais invité des fois après le boulot, et puis bon, c'est des équipes de travail comme on peut en trouver à Genève, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Mmh. Au centre commercial, le patron est bosno-serbe, le directeur est bosniaque, l'équipe est mixte, la clientèle aussi. Et pour que tout le monde se sente à l'aise dans le restaurant, ils ont trouvé une petite astuce, c'est qu'ils ont fait un décor exotique avec des girafes en raffia,
des faux palmiers. Ou tronçons, voilà. C'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. Et alors, la prochaine marche aura-t-elle lieu quand elle...
Oui, alors, donc, depuis le début, c'est toujours les mêmes dates, c'est du 8 au 10 juillet. Pour la bonne raison que le 11, on participe à la grande cérémonie chaque année de commémoration, voilà, du génocide de Srebrenica.
Exactement. Et toutes les personnes peuvent s'inscrire. Comment ça se passe? Si les personnes sont intéressées, comment s'informent-elles?
Alors, donc, nous avons une association à Genève, Solidarité Bosnie, à la Maison des Associations. Et je peux donner le email. Oui. C'est info@solidarite-bosnie.ch.
Et puis alors, pour 2017, vous attendez combien de personnes? Encore plus que l'année précédente, à chaque fois ça augmente.
Alors, oui, en 2015, effectivement, on a eu tout à coup un saut de 6 000 à 8 000, mais on pense qu'il y aura entre 6 000 et 7 000 personnes, à moins qu'il y ait effectivement une mobilisation plus importante à cause des dangers qui planent sur la Bosnie-Herzégovine,
oui.
Parce que donc, les accords de Dayton en 1995, on partageait la Bosnie en deux entités. Donc la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est composée des Bosniaques et des Croates, qui représentent une minorité de 10%. Mm-hmm. Et de l'autre côté, la Republika Srpska, qui fait 49% du territoire. Et ce qui est absolument affolant, c'est que les internationaux, la Dayton, ils ont donné Srebrenica à la République serbe, alors qu'ils savent très bien que c'est les fondateurs de cette fameuse république, dite république d'ailleurs, qui était derrière le génocide, quoi, Karadzic et Mladic.
Et ça, alors, ce sont des points de friction qui ont à nouveau cours actuellement. Enfin, tu disais qu'il y a une actualité délicate en ce moment.
Oui, alors, disons, là, je dirais qu'il y a une sorte de modus vivendi actuellement, mais si Dodik et les autres nationalistes, donc Dodik, c'est le grand patron de la République serbe, mm-hmm. veulent aller jusqu'à une sécession de la République serbe, c'est sûr que ça entraînera un nouveau conflit. Et du coup, leur argumentation, évidemment, c'est que la République serbe, c'est les bosno-serbes, mais c'est qu'en partie vrai, dans la mesure où ça recoupe, je ne sais pas, un peu plus de la moitié de territoire où les bosno-serbes étaient majoritaires, mais en tout cas un bon tiers, c'est des territoires tout simplement conquis, comme Srebrenica. Donc là, une sécession, ben, ça serait que la continuation de l'agression et du génocide, et les Bosniaques vont s'y opposer, c'est évident, quoi.
Ouais. Et toi, comment tu observes justement ces prochains temps, les prochaines échéances qui vont arriver, quelles sont-elles?
Alors, ben justement, on espère qu'il n'y aura pas cette échéance de sécession.
Mais
Et
s'il n'y
disons.
a pas ça, enfin, s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il faut qu'il y ait du vide à la place, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait rien, ou faut-il qu'il y ait une forme de, je sais pas moi, reconquête d'une entité, enfin.
Oui, tout à fait. Ben, disons, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est précisément le vivre ensemble.
Voilà.
Et je citais avant, donc, à Srebrenica, où s'est passé le pire, c'est possible. Donc, ça devrait être possible dans toute la Bosnie-Herzégovine.
Absolument,
Et
absolument.
là, ce qui est intéressant, c'est que nos camarades du Rojava, là, ils mettent actuellement sur pied le concept de confédéralisme démocratique. Et c'est une formule qui serait particulièrement intéressante pour la Bosnie-Herzégovine, voire les pays voisins. Et dans ce sens-là, il y a aussi des initiatives de travailleurs, comme notamment ceux de Dita. C'est des travailleurs qui ont réussi à reprendre leur entreprise qui avait été privatisée et fermée. Et ils ont réussi à reprendre pied, à relancer la production. Et là, ils sont dans tout un réseau qui regroupe aussi des travailleurs de Serbie, de Croatie, enfin des pays voisins, de Grèce. Donc il y a eu un congrès fin octobre à Thessalonique. Et là, c'est encore, je dirais, très minoritaire, mais c'est un espoir. On voit donc contre, disons, les clivages, les divisions nationalistes, il peut y avoir des réseaux qui se constituent d'entraide entre les travailleurs de ces différents pays, quoi.
Voilà, et puis on en revient à un internationalisme qui nous
Ouais.
sort de cette, comment dire, de cette macération
Voilà, ouais,
qu'on
c'est
a quand
ça.
on
Ouais,
vit comme ça en vase clos.
ouais. Ouais.
Très bien. Écoute, revenons-en quelques instants, puisqu'on arrive quand même doucement au terme de cet entretien, même si effectivement concernant la Bosnie, bien entendu que l'on en reparlera, puis qu'on fera des émissions entières consacrées à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, très intéressantes, et dont l'actualité, qui résonne avec l'actualité. Pour en revenir à la marche, y a-t-il des prérequis ou bien vraiment tout le monde peut y participer? Je veux dire, est-ce que les étapes de marche se font à un rythme soutenu quand même, mais relativement doux pour que tout le monde puisse le faire, ou il faut quand même être un petit peu préparé?
Oui, alors,
Sur le plan physique déjà, puis après je te demanderai sur le plan évidemment psychique également.
Ouais. Alors, effectivement, 26 km, il faut s'entraîner avant. Et bon, il y a quelques personnes, mais évidemment, ça peut être que limité, qui peuvent nous suivre certaines étapes totalement ou partiellement en voiture. Mais
D'accord. Parce qu'il y a également un relief important
il
ou
y a un
de ce
relief
côté? Oui.
important, et puis effectivement, il y a pas mal d'endroits où il n'y a justement pas de route, pas de voiture, quoi.
Ouais.
Et par contre, ce qu'on peut proposer pour ceux qui craindraient des étapes trop longues, c'est au mois de mai, par exemple, nous partons donc du 5 au 16 mai en Bosnie-Herzégovine, dans un voyage de découverte, avec donc début visite à Tuzla de l'usine Dita, notamment, puis d'une coopérative maraîchère. Et puis ensuite, on fait 4 jours de marche, mais avec des étapes d'une quinzaine de kilomètres, donc qui sont beaucoup plus à portée, notamment pour les seniors, quoi.
Ok, très bien. Et puis les personnes qui participent à l'aventure, de quoi doivent-elles se munir? Alors, est-ce qu'on porte avec nous un grand sac à dos avec des habits, parce qu'il fait peut-être frais lorsqu'on monte certains reliefs? Concernant la logistique et l'intendance, comment cela se passe-t-il?
Alors, un autre petit groupe international a toute une logistique montée avec nos amis là-bas, ce qui fait que nos bagages sont transportés d'étape en étape.
D'accord.
Et donc, comme je disais, le gros des marcheurs dorment sous tente, mais nous, on a pris l'option de loger chez l'habitant avec un forfait de 18 euros qui comprend donc le repas du soir, l'hébergement et le petit déjeuner. Et là, c'est toujours magnifique parce que c'est pour ceux qui connaissent pas la Bosnie-Herzégovine, bah, c'est une introduction donc chez les habitants qui se donnent d'ailleurs beaucoup de peine pour nous confectionner d'excellents repas avec les spécialités locales, quoi.
Et puis alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des internationaux, et puis ensuite, le gros de la troupe, c'est vraiment
Des Bosniaques
des Bosniaques.
de toute la Bosnie,
Voilà, et de...
avec une très grande, je dirais, il y a une très grande énergie dans cette marche qui nous porte. D'ailleurs, Gillet, dans le petit film qu'on va présenter le 3 mars, parle aussi de cette énergie exceptionnelle qui existe dans cette marche, parce qu'elle a vraiment, je dirais, du sens, quoi. Et encore plus de sens, parce qu'en plus du travail de mémoire, il y a le travail de prévention par rapport au risque de conflit. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait aussi de plus en plus de Serbes, de jeunes Serbes qui nous rejoignent dans cette marche, quoi.
Il y en a déjà quelques-uns
Il y en
qui
a
y sont.
déjà quelques-uns, notamment les femmes en noir de Belgrade, quoi.
Ouais, très bien. On va s'arrêter là, si tu es d'accord,
Oui.
Ivar, pour cette fois. Non sans rappeler que toutes les personnes qui, justement, auraient envie de te poser des questions, elles peuvent le faire via le mail que tu as donné. Peut-être voudrais-tu le répéter?
Oui, alors je peux donner peut-être aussi le numéro de téléphone. Chaque matin, 9h, midi, quoi, c'est le 022 321 63 14. Et puis le mail, c'est info at solidarité-bosnie.ch.
Ok, et puis on invite les personnes à nous rejoindre le vendredi 3 mars 2007, lors de pour la causerie du Lissignol 8, donc à l'adresse Lissignol numéro 8,
Ouais.
Ici à Genève, pour la soirée Bosnie-Herzégovine, la marche pour la paix face au risque d'éclatement, où tu interviendras pour la présentation et tu pourras certainement répondre à des questions.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et puis, on peut prolonger aussi la discussion par le forum qui existe sur notre site Solidarité Bosnie.
Très bien. Ivar, je te remercie beaucoup et puis à bientôt.
Oui, merci.
Avec plaisir. Alors, nous, on va faire une petite pause musicale et puis juste derrière, puisque j'ai entrevu nos invités qui viennent parler de la troisième, pour la troisième partie, la dernière partie de cette émission du film documentaire. Du film documentaire, pardon. Oups là là, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon ordinateur? Voilà. Du film documentaire Le Seuil, hein, sortir d'une unité psychiatrique. Donc, Franck Preisswehr, qui est le réalisateur du film, en compagnie d'une ou deux personnes, il me semble. On verra ça dans quelques minutes, juste après une petite pause musicale. C'est parti.
C'est minute dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini. Mini, 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 mini. Moi, je préfère les maxi, maxi moche et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus, maximum et maxibus, maxi terre et terre maxus.